What a waste, babe. What a shame. You were playing.
Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify.
Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca.
Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca.
Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
Bonjour, bonjour, bienvenue en 2019 pour la première le premier épisode de l'année de Pop en Stock. Nous sommes rendus à l'épisode numéro 192 et mon nom est Megan Bédard et aujourd'hui on en profite en studio pour parler en fait d'une œuvre qui a fait beaucoup jaser pendant le temps des fêtes. Donc c'est la parution le 28 décembre dernier. Du film interactif Band de Snatch sur Netflix, donc qui a déclenché une grande vague de discussions sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Donc le film s'inscrit en filiation de la série de science-fiction anthologique britannique Black Mirror, qui compte à son actif 4 saisons et 19 épisodes depuis 2011. Donc ici à Pop en Stock, aujourd'hui, nous avons décidé de surfer sur la vague plus ou moins polémique qui a suivi l'apparition de Band de Snatch, et donc on veut en profiter pour discuter de la série dans son ensemble aussi, parce qu'on l'avait déjà pas fait à Pop-en-Stock. Donc, pour en profiter, pour en discuter aujourd'hui, pardon, on a réuni des invités de qualité en studio. Donc, mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Je pense que c'est la première émission que j'anime où tu participes, Hélène.
Oui, oui.
Donc, c'est vraiment, je suis vraiment heureuse de pouvoir faire cette émission-là avec toi. Donc, Hélène Després, spécialiste dernièrement de séries télé, parce que tu écris des articles et tu fais des conférences là-dessus. Donc, on va pouvoir en profiter pour parler de ça, de science-fiction aussi.
Oui, surtout, oui.
Ouais, plus de science-fiction. Donc, tu avais ton ouvrage paru au Cartanier sur
les savants fous.
Sur les savants fous.
Puis j'en prépare un autre sur le post-humain.
Ouh, ça va être vraiment cool. Et aussi, donc, un régulier dernièrement de Pop en Stock. Ça fait quand même une couple d'émissions que tu viens avec nous, Sylvain Trottier. Donc, salut Sylvain.
Salut.
Bon, bienvenue en 2019, tout le monde. Et...
Bonne année.
Parce que c'est notre premier épisode, donc c'est les bonnes années mandatoires, même si on est rendu quoi le 16 janvier. Là. Quand est-ce qu'il faut arrêter ça, là, les bonnes années?
Bonne question.
Hein. Fin janvier, je pense.
Fin janvier, okay, le 1er février, c'est fini.
Ouais. Ouais. Il y a un nouvel an chinois qui s'en vient, donc on peut toujours faire le pont avec ça.
On va faire le pont avec le nouvel an chinois. Donc c'est ça, Bandersnatch, en plus j'ai regardé un peu mes réseaux sociaux dernièrement, puis il y a les Amazon, donc diffusé à Choc, qui ont fait un épisode la semaine dernière sur Bandersnatch, et j'ai vu quelques autres podcasts qui se sont intéressés au sujet, donc on a décidé de donner un peu notre grain de sel. Ou je sais pas si on peut appeler ça un débat, mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, surtout avec l'apparition de Bandersnatch pendant le temps des fêtes, parce que tout le monde en parle, mais personne n'a l'air d'avoir vraiment aimé ça. Donc, vous pouvez, je sais pas, quel est votre avis sur le sujet. Je sais pas, Sylvain, Hélène.
J'étais une relative fan de Black... Non, j'entends pas, non. Je suis une relative fan de Black Mirror à la base, ben, donc variable selon les saisons, selon les épisodes. Puis je l'ai écouté assez récemment, la semaine passée, puis j'avoue que j'ai été assez déçue, puis j'ai pas trop embarqué, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à en dire. Mais non, j'avoue que pour des raisons, entre autres, de récit, d'histoire, j'ai trouvé, puis de personnages, j'ai trouvé ça assez faible. Mais évidemment, la forme... on pourra se questionner aussi sur sa nouveauté de toute façon. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent là-dedans. Mais ouais, je pense que il y a quand même pas mal de critiques qu'on peut en faire. Ne serait-ce que son intégration ou non vraiment dans Black Mirror, mais ça, je pense qu'on pourra aussi en
faire. Ouais, ça va être une autre question qui va surgir. Je pense que Sylvain, t'avais un peu le même avis.
Ouais, c'est ça. En fait, moi, personnellement, je suis vraiment toujours très intéressé que ce soit des jeux vidéo, des livres ou ou même maintenant des séries dans lesquelles le spectateur fait un choix. Moi, c'est quelque chose que je trouve toujours super intéressant de voir les trames narratives qui se développent en fonction des préférences des utilisateurs. Donc, quand j'ai vu l'annonce de Bandersnatch, ça a tout de suite piqué ma curiosité. D'autant plus que Black Mirror, moi aussi, j'aime beaucoup la série. J'avais bien hâte de voir ce que ça donnerait. Je m'attendais pas non plus à quelque chose de super gros, fantastique, qui révolutionne la télé, parce qu'on rentre vraiment dans du mass media. Donc, il fallait que ce soit quelque chose quand même d'assez simple et accessible, mm-hmm. si on veut, de pas y aller trop profondément dans une complexité, parce que c'est un peu le premier du genre. C'est pas le premier problème, mais c'est le premier du genre à être autant grand public, si
ouais,
on veut.
Médiatisé
tout, aussi. Donc, j'étais bien curieux de voir ça. J'ai un ami qui est venu chez nous. On l'a fait à deux. Donc, il fallait s'entendre sur des choix rapidement.
C'est quoi? C'est 10 secondes, je pense.
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? OK, on essaye ça. Puis au final, j'ai pas détesté mon expérience. J'ai pas fait comme ok, j'ai perdu 2 heures de ma vie à peu près. J'ai pas non plus trippé. Il y a quelques scènes que j'ai trouvées intéressantes, bien réalisées, accrocheuses et tout. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est peut-être mon bagage aussi ludique qui a fait que j'ai trouvé ça ok.
Ouais, mais ça reste quand même intéressant parce que il y a quelque chose. C'est ça. Avant de venir en onde aujourd'hui, j'ai fait quelques petites recherches pour voir s'il y avait des précédents, donc des films interactifs comme ça, diffusés. Mais c'est ça, c'est un des premiers du genre à être massivement diffusé, mais sur une plateforme web. Donc, il n'y avait pas moyen, on pouvait pas écouter le film sur notre téléviseur, par exemple. Ce que beaucoup de gens font quand ils écoutent Netflix, on a notre console ou notre télé intelligente branchée, puis là, on veut écouter Netflix sur une télé parce qu'on écoute des films, on écoute des séries télé. Mais il fallait vraiment avoir un ordinateur portable ou soit une manette. Là. Je pense que ça fonctionnait avec une manette de console.
Ouais, j'ai vu qu'il y a eu certains problèmes sur certains supports. Je me souviens plus du détail exactement, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui utilisaient, si je me trompe pas, PlayStation 3 ou quelque chose comme ça. Il y avait de la difficulté des fois à choisir certaines options. La manette fonctionnait pas bien. Moi, j'y suis allé sur mon ordinateur avec ma souris wireless, donc c'était assez...
Ouais, moi aussi.
Parce que c'est ça, au début, ils nous disent, pour faire le choix, il faut utiliser soit ta souris ou ton trackpad. Donc, c'est ça. Il y a un support qui s'impose. On peut pas écouter ça sur notre tablette. On pouvait-tu l'écouter sur une tablette? Ça se faisait-tu?
J'ai pas de tablette, donc.
Non,
moi non plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça dans le métro. Là, ils prennent toute la place avec leur tablette.
D'ailleurs, ça m'amène la question. Je sais pas si... Là, je suis vraiment dans la spéculative. Tu parles dans le métro et tout ça. Est-ce qu'on pouvait le regarder pas en ligne?
À télécharger?
Ah, je sais pas. J'ai pas essayé non plus.
Plein de questions.
Si quelqu'un le sait, dites-le nous. Je suis curieux.
Écrivez-nous sur la page de Popastock. Appelez-nous. J'ai pas le numéro, mais je vous appelle.
Non, je sais pas, mais d'une certaine façon, le fait que c'est nécessaire d'avoir un ordinateur, ça répond aussi à la forme puis au contenu d'une certaine, c'est-à-dire que c'est aussi ça que ça critique, c'est-à-dire
il y a l'usage, la multiplication puis l'omniprésence des technologies, puis là on est comme obligé d'utiliser une technologie récente pour écouter, regarder. Je sais, j'avais de la misère à... Il faut regarder Black Mirror, mais pas regarder Bandersnatch.
Ouais. Une télévision interactive, par définition, c'est un peu éloigné du concept même de télévision. Tu sais, c'est un peu pourquoi on est pris dans l'idée du non-série télé, alors que ça n'a plus tant rapport avec la télé. Là. Mais ce médium-là, est-ce qu'il correspond vraiment à la possibilité d'interactivité? Je sais pas. C'est pas certainement pas conçu pour ça, en tout cas.
Non, c'est ça. D'où l'intérêt, d'où l'obligation, justement, d'aller sur l'ordinateur ou sur un médium plus interactif.
Ouais. D'ailleurs, je sais pas si je peux me permettre je sais pas si les gens qui vont nous écouter savent exactement de quoi on parle depuis tantôt.
Mais ça fait beaucoup jaser là, mais je sais pas si tu veux.
Mais c'est ça, mais assez rapidement pour ceux qui au cas où là, Bandersnatch, en fait, c'est un épisode dans la série Black Mirror. On pourra revenir en détail sur la série si vous avez jamais vu, je vous invite à regarder ça. L'épisode de Bandersnatch avait comme particularité que l'auditoire avait à certains moments de la trame narrative des choix à faire. Donc, les choix étaient toujours A ou B. Il n'y avait pas plus d'options.
Il y a un choix à trois fois.
mais généralement, c'était très limité. Et donc, en faisant les choix, certaines scènes se débloquaient plutôt que d'autres et l'histoire avançait, entre guillemets, au gré des décisions du public. Avec la particularité d'amener à certaines fins. Et qui nous amenait un peu en arrière et on pouvait recommencer certains choix. Donc, on avait comme une trame narrative qui était construite, par des réalisateurs et qui avait défini un ordre particulier, mais avec un impact du téléspectateur qui pouvait le regarder un peu dans l'ordre de son choix sans trop savoir quel impact allait avoir chacun de ses choix. Surtout que souvent, les options qui étaient données étaient très floues. je sais pas pour vous, mais moi, des fois, j'étais pas sûr de saisir quelle était la différence entre l'option gauche et l'option droite. Là, c'était un mot ou voire même un symbole à certains moments.
La conséquence n'est pas si liée au choix qu'on fait parfois. On choisit quelque chose, puis finalement, on dit « Ah ouais, c'était ça, ce choix-là, on comprend pas trop. »
La conséquence n'est pas évidente, là, donc, mais en même temps, ça nous fait réfléchir par après, comme juste le oui ou le non. Il y a les conséquences de ça qui sont pas nécessairement celles qu'on pouvait prévoir.
C'est un truc qu'on voit souvent aussi, autant dans les jeux vidéo, où tu as des choix comme ça qui font la trame narrative, ou tes choix de dialogue, ou ou même des livres dont vous êtes le héros. Il y a toujours cette portion d'interprétation qui fait que tu peux pas savoir exactement tu sais, quelles seront les conséquences de ton choix, même si tu sembles comprendre l'idée générale. S'il répond oui, tu dis OK, ben il va dire oui, mais il pourrait dire oui, comme il pourrait dire oui. Tu sais, ça change complètement. Là, c'est
oui, ça. Oui,
ça me fait juste penser aux options de dialogue dans Fallout, là, donc où ce que dans Fallout 4, où il y avait réduit les dialogues. Dans Fallout 3, on avait la phrase au complet. Ouais. Dans Fallout 4, il y a comme 4 choix, mais c'est comme être sarcastique,
oui.
Non, puis poser une question.
Ouais.
Oui, quand tu fais le choix, ça n'a aucun rapport.
Non, c'est ça, tu ne t'attends pas du tout à ce que ça...
Tu écoutes, puis il n'y a pas sarcastique du tout.
Comme, non, elle est juste rude.
mais ouais, c'est ça. Ça me fait penser justement à la série Dragon Age qui avait été développée par BioWare, qui est un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros jeu d'aventure narrative, roleplay, là, vraiment, tu as un personnage, puis là, tu développes, tu as des aventuriers qui t'accompagnent et tout. Puis dans un des volumes, ce qu'ils ont fait, un des jeux, ils ont fait un système de petites icônes. Donc, l'icône représentait une attitude générale. Donc, quand tu faisais ton choix, tu sais ce que tu es plus dans une attitude compatissante, si on veut, ou dans une attitude plus agressive. Et donc, c'était pour un peu comme donner une couleur à un choix plutôt que de donner une série de mots qui, pour toi, pourraient être interprétés d'une façon plutôt qu'une autre. Puis je pense, à mon avis, que ce genre de choix-là est aussi pour permettre à la machine, entre guillemets, de calculer, tu sais, OK, là, il fait un choix gentil, il fait un autre choix gentil, donc ça veut dire que les conséquences vont être...
T'accumules un capital de sympathie.
Exactement, c'est ça.
Un capital d'empathie.
Exact. Ce qu'on n'a pas du tout dans la série Bandersnatch, là, où on est très, très... Dans l'épisode Bandersnatch, où on est très, très niveau zéro, là, A, choix B, puis regarde ce qui se passe, là.
Oui, puis ton attitude ne va pas altérer nécessairement tes choix suivants, tu sais.
Effectivement.
T'sais, il va altérer l'histoire, mais pas forcément les choix.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on pense aussi du fait que t'as peut-être tombé sur celui qui avait juste un choix?
C'est-à-dire
qu'il n'y a pas deux choix. C'est flashback, il me semble, quand il est enfant. Ouais.
Oui, t'as pas le choix, effectivement.
Ben, le premier flashback, on n'a pas le choix, mais si vous avez vous retournez la deuxième fois, là, on peut avoir le choix.
Ouais.
Qui donne une fin quand même assez spéciale.
Mais c'est particulier, quand au début, la première fois qu'on est dans un flashback, il dit OK, voici le choix que t'as, puis un choix qui apparaît. Tu dis ah ouais, OK, c'est drôle, tu sais. Mais je sais pas, on dirait que c'est ce moment-là aussi qui te fait montrer à quel point, en fait, t'en as jamais de choix.
Ouais.
En fait, tes choix sont vraiment déterminés aussi par la volonté d'écouter le film, en fait. Parce que moi, le premier choix qui vraiment altère l'écoute, qui est est-ce que t'acceptes ou pas de
l'offre.
Ouais, ben moi, la première fois, je l'ai accepté, l'offre. Puis
je pense que tout le monde a dû faire ça.
Tout de suite. Fait que c'est là que tu comprends qu'en fait, tes choix n'ont aucune conséquence. Parce que si tu fais ce choix-là, t'écoutes plus le film. Donc, par définition, c'est comme si tu pouvais plus jouer. Donc, puis tu comprends que probablement que la plupart de tes choix vont avoir ce genre de conséquences-là.
Oui, effectivement. Surtout que, je ne sais pas pour vous dans votre écoute, mais j'ai eu l'impression que lorsque j'arrivais à une fin, on revenait en arrière, puis on me disait, ah non, mais c'était pas ça la fin, en fait. Tu sais, réessaye. Puis un moment donné, paf, ils m'ont sorti le générique.
Dans Bravo, tu as réussi à trouver la vraie fin.
Alors que oui, mais non, je ne trouvais pas que cette fin-là était meilleure ou pire ou plus intéressante ou moins intéressante. J'ai juste eu l'impression que c'est comme si j'avais eu un certain nombre de choix. Puis à un moment donné, que je suis arrivé au bout de mes choix, ils font, bon, ben c'est cette fin-là que tu as, puis voilà. Je sais pas si ça vous. Moi, ça m'a donné un peu ce sentiment-là.
Ouais, ça nous donne aussi un peu des... Je sais pas comment dire en français, mais des crossroads. Là. Donc, on a deux moments où ce qu'on peut choisir de revenir en arrière.
Ouais.
Donc, pour essayer d'avoir des nouvelles fins. Mais j'ai oublié mon idée. Je vais m'en revenir.
Mais quand le personnage commence à se rebeller aussi contre toi, en fait, comme spectateur, ben, se rebeller, disons, se questionner.
Avoir conscience du fait
qu'il se questionner sur d'où viennent ses pulsions puis d'où viennent ses choix. C'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans. C'est-à-dire que ça permet une vraie réflexion sur le libre-arbitre, en fait. Sur le libre-arbitre en tant que consommateur dans une société capitaliste. C'est-à-dire, à la fois, lui... T'sais, un personnage, par définition, est soumis à un Deus Ex Machina, à un paquet de choses, qui, de toute façon, va se rebeller d'une certaine façon contre son narrateur. Ça arrive depuis des décennies en littérature. C'est loin d'être une nouvelle idée. Mais de vraiment créer un rapport entre le spectateur puis le personnage, puis lui montrer à quel point ni un ni l'autre a aucun libre arbitre, puis qu'en fait on est tous contrôlés par Netflix. Au fond, c'est ça la morale à la fin.
En même temps,
ça fait très Black Mirror comme
c'est
moral.
Ça, c'est ça, ça, je pense que c'est la chose la plus Black Mirror de l'épisode, en fait.
Effectivement. Ouais, exactement. Parce que, oui, ça, c'est quelque chose qui est à remarquer, c'est que, à mon sens, et je pense que c'est ça qu'on disait un peu tantôt, c'est pas un épisode de Black Mirror au sens où on l'entend habituellement. Un épisode de Black Mirror, généralement, c'est on prend un truc technologique et on le pousse, on l'exagère, puis on regarde de façon assez négative dans la quasi-totalité des épisodes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de pire qui pourrait arriver avec ça? Ce qui est le fun, mais là, dans cet épisode-là, j'ai pas tant eu cette impression-là d'être face à des choix moraux, des questionnements, de me dire waouh, on va se rendre là. Puis c'est ça qui m'a fait dire que c'est pas un épisode de Black Mirror à proprement parler. Évidemment, il s'inscrit dans l'univers de Black Mirror parce que là, il y a plein de références et de clins d'œil.
Plus sous la forme du Easter egg.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais l'épisode en soi n'est pas. J'en suis pas sorti en me posant des questions là, sur c'est vrai que ça, il faut qu'on fasse un peu attention, ou tu sais, ça c'est intéressant à regarder parce que c'est en train de se passer présentement. Je pense aussi qu'il y a un effet que ça se passait dans le passé.
Ouais, c'est ça, parce que la plupart des épisodes de Black Mirror sont comme dans une espèce de futur rapproché.
Présent dystopique. On est toujours dans la.
Je disais allô à Catherine Côté qui vient de nous rejoindre.
Bonjour.
Allô. On est content de t'avoir avec nous. Donc, pour poursuivre l'émission, merci d'avoir pu te joindre à nous. Et oui, je voulais revenir sur quelques éléments de Bandersnatch avant qu'on transite directement vers Black Mirror. Oui, l'idée que j'ai perdue tantôt, c'est que le fait que les choix, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de conséquences ou qu'on peut revenir continuellement au départ, ça me faisait vraiment penser au format de la manière dont on reçoit les livres dont vous êtes le héros, parce que c'est assez rare qu'on va recommencer du début si on meurt dans une page. Si tu gardes la page, tu gardes ton doigt dans la page, tu fais comme « Oh, OK, c'est pas le bon choix, je vais aller voir l'autre. » Mais je trouvais que ça limulait un peu ce rapport-là au récit interactif qu'on a, parce que tu sais, même si le premier choix qu'on fait, c'est d'accepter l'offre, le premier choix qui est vraiment... un sens pour le développement de l'histoire, là, pas les boîtes de céréales. Donc, ça fait juste nous ramener à l'étape d'avant, faire comme « Ah oui, mais tu n'as pas fait le bon choix, fait que fais juste recommencer un peu, puis on va continuer. »
C'est un peu comme si les réalisateurs avaient déjà défini leur trame, puis il faut que tu fasses ce choix-là, parce que c'est pas celui-là que tu fais, ben recommence. Donc, tu te poses la question à quel point est-ce que ça vaut la peine, dans ce cas-là, d'offrir des choix aux spectateurs. Mais après, du moins, c'est le feeling que j'ai eu au début, puis après ça, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, quand je suis rentré dans la deuxième moitié de l'épisode, j'ai l'impression qu'ils sont juste tapés un gros délire. Puis on va s'amuser à mettre un paquet de clichés différents avec des fins différentes. Le côté, tu sais, program and control, c'est une conspiration gouvernementale. Puis là, après ça, tu as la créature du Bandersnatch qui se glisse. Puis là, après ça, tu as un autre bout de délire en fait c'est dans son passé qui s'est passé de quoi, puis donc c'est comme si on essaie de ramasser différents morceaux, qu'on les met tous dans le même épisode, puis qu'on essaie de comme coller ça ensemble sans vraiment avoir une espèce de fil conducteur, de ligne directrice là, je sais pas. J'ai vraiment eu l'impression que c'est un gros melting pot au final là.
Mais moi, j'ai été déçue par le fait qu'on peut pas comme jouer une game qui est clean. Justement, moi j'essayais de faire des choix pour comme que les personnages survivent ou pour qu'on se rende jusqu'à la fin,
sa thérapeute, puis prendre ses pelules, puis ça dit non.
Exactement, puis ça arrête le film instantanément. Toutes les fois que tu prends une bonne décision comme ça...
T'es puni, en fait,
exactement. Ouais. Je trouvais ça un peu décevant, parce que, justement, toutes les questions philosophiques qu'il y a derrière, avec la question du déterminisme, puis le libre arbitre, à quel point on a vraiment un contrôle et tout, là-dedans, on en avait un contrôle, mais c'est pas le contrôle que moi, j'aimerais avoir.
On n'a pas le contrôle, même si on est en train de choisir.
Non, c'est ça.
C'est ça. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, le fait que, pour revenir à ce que tu disais un petit peu plus tôt, Hélène, c'est que on est impliqué dans le film, mais pas de la manière dans un jeu vidéo avec un avatar. Parce que quand on joue, par exemple, à Dragon Age ou à Fallout, on incarne notre avatar, puis c'est un RPG, là, fait qu'on devient un peu cet avatar-là. Alors que là, on a un rôle à jouer dans le récit narratif, mais c'est un rôle qui est à l'extérieur, mais qui est quand même impliqué d'une certaine manière, là. Donc c'est un peu comme si on devenait un personnage qui était déjà scripté d'avance.
Mais en fait, en t'écoutant, je me rends compte que le point de rupture dont tu parles tantôt, au fond, c'est le point où tu te rends compte que t'es pas le personnage. Parce qu'en fait, ce que tu dis, tu t'en rends pas compte au début. Au début, t'as l'impression que t'incarnes ce personnage-là, puis que tu décides pour lui au sens que tu es lui. Tu sais, je veux dire, pourquoi un personnage extérieur choisirait la sorte de céréales qu'il veut manger pour déjeuner? Il n'y a pas de raison, tu sais, ça. Alors, tu sais, par défaut, tu comprends que tu joues lui, que t'es lui, puis que en tant que spectateur, c'est lui ton point narratif.
C'est un processus d'identification très simple qu'on a continuellement quand on écoute des séries télé aussi.
Ouais, c'est ça, complètement. Puis un peu comme beaucoup de séries télé, ça dégénère. C'est-à-dire que quand les personnages commencent à faire des choix trop problématiques, ben là, on commence à se détacher progressivement. T'sais, je veux dire, t'écoutes Breaking Bad, tu peux pas prendre pour lui pendant 5 saisons. Là. C'est effectivement très
génial. Il est génial.
Plus ça va, plus tu te sens mal à l'aise de t'identifier à un personnage. Puis ça arrive dans quelques séries de ce genre-là.
Ben c'est ça, l'exemple le plus marquant peut-être d'un subversion d'identification comme ça, c'est dans Psycho. De Hitchcock, où c'est le personnage principal meurt en plein milieu, puis là, il faut qu'on se rattache au seul personnage qui reste, c'est-à-dire...
Oui, puis c'est violent, là. Oui, c'est ça. Il y a une forme de violence narrative là-dedans, mais là, je pense que c'est peut-être un aspect intéressant de Bandersnatch, c'est-à-dire que cette subversion-là est assez nouvelle, à mon sens, où tu passes, non pas à t'identifier un personnage problématique, mais tu deviens celui qui contrôle, c'est-à-dire tu deviens... malgré toi, puis ça te force à continuer à faire des choix, parce que si tu fais pas de choix, il est fait à ta place, donc c'est comme si tu les faisais. Parce qu'au fond, c'est un peu le problème de l'innocence, tu sais, c'est-à-dire que même si tu refuses de faire des choix, ça va quand même avoir un impact, c'est quand même un choix de pas faire un choix. Mm-hmm. Donc, ça devient de t'obliger à te mettre dans cette position-là du personnage problématique, et non pas à te faire hésiter entre t'identifier ou pas, tu sais. Mm-hmm. Alors que dans ces séries-là, tu sais, comme dans Psycho, cette rupture-là est tellement violente que tu peux juste t'en détacher complètement, tu sais, puis voir la monstruosité complète dans le personnage, puis t'en éloigner. Alors que là, tu t'attaches jamais vraiment au personnage de toute façon.
Ouais, il est pas très attachant.
Parce qu'il est pas attachant du tout.
Non, c'est ça.
Il est pas intéressant vraiment. Puis honnêtement, les choix qu'il y a à faire sont pas passionnants non plus. Ce qui fait que c'est toi qui es le personnage, tu sais, d'une certaine façon, tu sais. Puis c'est pas pour rien que ça devient justement délirant quand il commence à se questionner sur qui prend les décisions à sa place. Mais je trouve ça dommage un peu que ça soit justement psychiatrique, tu sais.
Ouais, c'est ça que ça intègre, ces questionnements-là dedans.
Ouais, c'est ça. Alors que.
Moi, je sais pas, on est un peu dans des tropes, là.
Oui, mais c'est pas très Black Mirror.
Ça, je te fais d'accord. Je suis d'accord que c'est pas un Black Mirror.
Ouais, non, c'est ça, mais ce trope-là en particulier, il est comme.
Ouais.
Mais moi, la question que je me posais, c'était. Parce que j'ai fini la 4e saison il y a pas longtemps, puis le dernier épisode de Black Museum, je me demandais si dans le fait que les choix qu'on nous propose sont de plus en plus sombres, puis que les bonnes réponses soient des choix négatifs, on jouait pas sur le sadisme justement chez le spectateur, pour se demander jusqu'à où on est prêt à aller, parce que à un moment donné justement l'identification shift complètement, puis on réalise qu'on est le master of puppets.
C'est intéressant parce que c'est un thème très important de Black Mirror dès le premier épisode.
Oui. Ben oui, c'est le spectateur qui est maléfique complètement.
Oui. C'est la espèce de pulsion de destruction de l'autre.
La pulsion de voir l'autre se détruire.
Ouais, exactement.
Mais c'est pas encouragé par le fait, en tout cas dans mon cas, là, que c'est juste une narration, puis je suis juste curieux de voir c'est quoi les niaiseries auxquelles ils ont pensé. Là.
Non, c'est clair.
Parce que c'est pas une vraie personne.
Ça marche
pas
vraiment en connaissant ça, en fait. C'est que cette idée-là est pas mal, mais ça marche pas, parce que t'es jamais assez investi pour que ça marche.
Non, c'est ça, c'est plus la curiosité morbide. Moi, j'avais choisi qui se lance en bas du balcon, en fait. Puis je suis assez déçue de réaliser que ça faisait arrêter le scénario juste là, puis il fallait que je recommence.
Pour vrai? Oui. J'ai pas fait celle-là.
Oui.
En plus, avec tout l'imaginaire du Pac-Man, je m'attendais à ce qu'il revive automatiquement.
Non, même pas.
Pas mal, parce que ça fait combien de temps qu'il nous parle de Pac-Man?
C'est ça.
Quand tu meurs, tu réapparais de l'autre côté, puis que...
Mais non, pas du tout.
Ah.
Non. Ça se finit juste comme ça. C'est vraiment décevant, justement.
Je trouve ça cool, d'une certaine façon. C'est juste comme, putain, voilà. Parce que ça surprend quelque chose.
C'est ça, la vie.
Ben, il est mort.
À quoi tu t'attendais?
Mais c'est comme... être relativement intéressant de voir que, tu sais, il y a tout le discours du personnage, c'est qu'ils ont leur trip d'acide, puis tout le discours de, ah oui, mais la réalité, c'est pas la vraie réalité, puis si tu sautes en bas du balcon, mais tu vas revivre, mais non. Fait que là, c'est comme à chaque fois, il y a comme le récit se subvertit lui-même, puis il fait juste nous détourner constamment de qu'est-ce qu'il essaie de nous exposer. Puis c'est dur de s'accrocher à un récit comme ça,
ouais.
Parce qu'on dirait qu'on est trompé constamment,
ouais.
Par qu'est-ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit que c'est quelque chose, mais ça peut être quelque chose d'autre. Puis vu qu'il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes devant nous, ben il y a rien sur lequel on peut se raccrocher. Mm. Fait qu'on a de la misère à s'identifier au personnage, à embarquer dans l'histoire. On est juste ah ben le but c'est juste de voir toutes les fins, puis.
Mm.
De faire tous les choix.
Ouais, tu sais, honnêtement, ton premier réflexe à la fin, c'est d'aller voir sur Internet qui a trouvé toutes les fins.
C'est trouver l'arbre.
Il y a quelque chose de la chasse au trésor, ou même, tu sais, littéralement de la chasse aux œufs de Pâques.
Mais c'est la forme qui devient plus intéressante que le récit. En
oui, ce qui était censé être une des inquiétudes que les acteurs avaient de participer à un projet comme ça, puis que ça devienne juste un gadget, mais ça en est devenu juste un gadget, justement.
Oui, puis c'est pas une forme aussi intéressante qu'on pouvait s'attendre non plus.
Non.
C'est ça qui un peu dommage.
Mais ça a toujours été un peu comme ça. Comme dans les petites recherches que j'ai faites, c'est ce qu'on appelle le gimmick cinéma. Là. Donc, toutes les œuvres cinématographiques qui rajoutent une gimmick, là, on pense à Spy Kid, puis l'Odorama, puis ces affaires-là. Il y a le film de 1961 de William Castle qui s'appelle Mr. Sardonicus, qui est un film interactif qui se passait dans une salle de cinéma. Donc, chaque spectateur, spectatrice était remis un carton. Là, tout le monde votait au moment de faire des choix. Puis après, on passait une autre bobine en fonction de la majorité de la salle.
Wow!
Mais il y a quelque chose de très communautaire de faire un choix en gang comme ça. Puis peut-être que le choix que tu vas effectuer, c'est pas celui que la majorité aura choisi. Donc, c'est sûr que ça date un peu, mais ça n'a jamais réellement eu une emprise. Puis qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur l'espèce de sadisme du spectateur, c'est que dans Mr. Sardonicus, à la fin, il y avait deux fins possibles. Il y avait une fin où le personnage qui était comme complètement défiguré, puis il y avait comme une espèce de... Le personnage était vraiment comme défiguré et très monstrueux. On avait le choix de le punir ou de le sauver. Et la majorité des gens ont choisi de punir Mr. Sardonicus.
J'espère bien.
C'est ça.
Parce qu'on veut voir ce que ça donne, c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est un personnage, c'est pas grave.
C'est ça.
On dirait que ça devient presque des expériences de psychologie.
Ouais,
ça ressemble à Ingram, puis à, toutes ces expériences de psychologie vraiment spectaculaires qui sont devenues un peu des mythes, puis qui ont été récupérées par la fiction tellement souvent après. Là.
D'ailleurs, on pourrait pas voir un épisode comme ça où Netflix dit tel jour, telle heure, tout le monde regarde en même temps, faites vos choix, puis on va builder l'histoire au fur et à mesure ensemble.
Ouais.
Ça serait intéressant, ça, quand même.
Sur Twitter, ça capoterait sa vie.
Oui, absolument.
C'est quoi le choix que vous avez fait?
Ça défierait aussi un peu l'objectif de Netflix qui est de choisir quand écouter, quoi écouter quand on veut.
Effectivement.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, ça pourrait pas être Netflix, c'est ça.
Mais c'est ça, mais c'était une des grosses questions qui était posée avec ce film-là. Justement, c'était tellement un phénomène, puis est-ce que c'est ça le futur du cinéma? Le futur de la télévision, qui est des trucs interactifs et tout. Puis justement, le consensus jusqu'à date, c'est non.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non,
ça peut être intéressant, mais on va faire ça ponctuellement, puis ce sera pas une tendance, justement.
Ouais.
En tout cas, si c'est pour devenir le futur, je pense que ça a besoin d'être affiné un petit peu davantage.
Oui.
Pour moi, ça sonnait un peu comme un essai de la part de Netflix de voir qu'est-ce que ça peut donner ça. Puis ils testaient des trucs avec cet épisode-là. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue. C'est ça qu'on jasait un peu tantôt. Premier truc que j'ai vu là, c'est que c'est une façon de contrecarrer le piratage illégal. Parce que si tu vas sur des sites de streaming en ligne illégaux, tu peux pas faire les choix. Les outils sont pas du tout développés pour ça. Donc, tu vas regarder qu'une seule trame narrative décidée par quelqu'un qui va avoir joué avant toi, puis qui aura extrait cette version-là. Donc, je le vois un peu comme une forme de défense de la part de Netflix pour dire, ben, regarde, si tu veux pouvoir participer à cette expérience télévisuelle, ben, t'es obligé d'être abonné, tu sais. Tu peux pas passer par d'autres avenues. Puis l'autre truc que je vois avec ça, c'est que c'est une super belle façon de tester des produits, des marques, des musiques, comme on le voit au début, là, tu sais, t'as deux céréales, t'as deux musiques que tu choisis, puis de voir qu'est-ce que le public Netflix aime comme musique, qu'est-ce que le public Netflix aime comme bouffe, qu'est-ce que le public Netflix aime, et avec ça, ben, mapper des trucs, puis ensuite le revendre comme publicité.
C'est le sondage déguisé.
Exactement.
Non, ça trouve son écho dans ce qu'on disait tantôt, c'est l'illusion du choix, c'est la société capitaliste moderne, c'est l'illusion du choix. On pense qu'on choisit la marque qu'on mange, mais il y a juste des grosses corporations qui
toutes les marques appartiennent à la même compagnie de toute façon.
Lay's, toute cette affaire-là.
Oui.
Coke, les autres.
Ouais.
C'est ça, ils se partagent un peu toutes c'est l'illusion du choix, un peu comme Bad de Snatch.
Ouais, puis le seul choix, c'est le capitalisme. C'est ouais, aussi ouais, la grande force du capitaliste, c'est de réussir à intégrer, en fait, à même faire profiter des critiques, tu sais, je veux dire, c'est le capitaliste a réussi à faire de l'argent avec les critiques du capitalisme, tu sais. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il est si puissant aussi, puis qu'il est aussi mm-hmm, si difficile à déconstruire, parce que ben, il peut avoir des choses comme Bandersnatch, puis il peut y avoir des gens qui font de l'argent avec des choses qui critiquent même le système. Je veux dire, on s'entend que Bandersnatch est une critique de Netflix aussi, mais c'est parce que Netflix permet ce genre de critique interne-là qui est encore plus puissant. Parce que comment tu peux attaquer quelque chose qui est déjà critique de soi-même? Ça devient vraiment... C'est
insidieux aussi. Ouais. Comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de subversif, l'industrie se le réapproprie. Puis
ouais,
on nous le revend.
Ouais, parce que pour ceux qui l'ont pas fait, il y a un moment donné où le personnage il nous demande qui on est, qui est en train de faire des choix pour lui. Puis un des choix, c'est Netflix.
Ouais.
Ouais.
Puis ça, c'est tellement dérangeant quand tu as ce choix-là. Puis après, faut que tu lui expliques ce qu'est Netflix, puis il comprend pas parce qu'il est dans les années 80. Puis ça devient une grosse pub pour Netflix. Ouais. C'est assez troublant, là.
C'est même pas toi qui l'explique vraiment. C'est non? Netflix qui explique à son personnage ce qu'est Netflix, ouais, c'est ça?
En te l'expliquant par la même.
C'est, ouais, ça.
C'est de la grosse mise en abyme quand même, ça. Ouais. C'est intéressant.
Netflix est un personnage dans Bandersnatch.
Ouais.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est le dispositif. Là.
Ben oui, c'est,
oui,
ça.
C'est ça.
Mais je suis pas sûre que ça ait beaucoup d'amour, ne serait-ce que pour des raisons commerciales. Là. Je veux dire, déjà, Netflix perd de l'argent dans ses productions normales. Je veux dire, les chances, ça doit coûter une fortune faire quelque chose comme Bandersnatch. Oui. Je veux dire, t'es obligé de tourner combien de choix alternatifs que les gens vont pas écouter pour la plupart. Puis, ce qui fait que tu peux pas avoir une très grosse qualité ou en tout cas production value, ce qui est pas énorme dans Bandersnatch d'ailleurs, parce que on s'entend que c'est joué correctement. Les décors sont corrects.
Ça fait la job.
C'est pas du grand Black Mirror. T'sais.
Mais en même temps, ça joue beaucoup sur la nostalgie, les années 80.
Oui. Ben ça, je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus énervée, pour être honnête. Parce que moi, j'en peux plus, la SF des années 80. Mais ça, c'est personnel. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être la majorité.
Non, mais c'est aussi une stratégie marketing que de faire ça, que de s'inscrire dans cette vague-là de nostalgie des années 80. Puis avec la musique intégrée.
Mais la seule chose que j'ai trouvé pertinente par rapport à ça, donc je suis quand même de bonne foi, c'est que le procédé lui-même est dans des choix binaires. Donc on est loin du jeu vidéo où les choix sont généralement loin d'être binaires. Là, dans un jeu vidéo, en général, on a beaucoup de choix maintenant, mais pas dans les jeux vidéo des années 80, justement. Ce qui nous est d'ailleurs montré dans la série. Donc, le dispositif, au fond, c'est un dispositif des années 80. Ça a beau utiliser une technologie comme Netflix, c'est pas transparent, cette technologie-là. Tout ce qu'on voit, ça reste juste deux choix qu'on peut faire, qui a une conséquence limitée, qu'on sent très bien qui est scripté. Je veux dire, on n'a jamais l'impression de vraiment faire des choix, parce que les choix sont tellement simples. Puis ben au fond c'est une mise en c'est justement le fond et la forme, c'est-à-dire que c'est justement ça parle d'une époque où c'était justement ça l'interactivité, tu sais, où la technologie nous permettait pas d'aller plus loin que ça. Donc je pense que c'est comme ils veulent nous montrer que c'est le début d'une technologie comme c'était le début d'une technologie dans les années 80.
Ouais. Ouais. Regardez, on a fait nos recherches. On s'est inscrit dans ce qui était à l'époque. Puis peut-être aussi pour montrer à un public qui connaît pas, ça existe depuis longtemps, ce genre de truc-là. Là. Parce que c'est pas tout le monde qui a mis la main sur un livre dont vous êtes le héros. C'est pas tout le monde qui joue à des jeux vidéo. Là. Nous, on est relativement une tranche d'âge qui est habitué à ça, mais plein de monde, en fait, qui n'ont jamais fait ça. Puis probablement que Bandersnatch, c'est comme une expérience complètement nouvelle pour eux. Là. Ah, waouh, je peux choisir ce qui se passe.
Ouais, c'est ça, ça donne cette illusion-là. Mais ça, on se réfère aussi au titre. Le Bandersnatch, c'est une créature créée par Lewis Carroll, mais c'est aussi le premier nom d'un jeu qui est sorti en 1986. Donc, le jeu officiel, c'est Bratacas. Donc, développé par Imagine Software, mais initialement, ça s'appelait Bandersnatch, donc qui a été développé en 1984. Et aussi, ça fait référence en informatique, donc à un espèce de problématique d'algorithme, donc qui est comme en théorie de l'informatique, là, donc qui n'a jamais vraiment... Donc, tu sais, c'est sûr que ça s'inscrit dans ce champ-là d'imaginaire des années 80, puis des algorithmes des années 80, du... De, justement la programmation de, ce, de cette époque-là. Mm. Puis ça fait référence à ça. Mais moi, j'essayais de voir un peu parce que je, comme j'étais une, pendant un bout, j'ai eu mon triple Lewis Carroll. Puis c'est sûr que quand j'ai entendu Bandersnatch, j'étais comme OK, est-ce qu'il va y avoir un Bandersnatch, comme une espèce d'oiseau, mm-hmm. monstre impossible de Carroll. Mais c'était. Je trouvais que le lien était un peu éloigné. Je pense que ça.
Ben oui et non, parce que c'est le Bandersnatch spécifiquement non, mais bon, avec Lewis Carroll, les liens sont assez évidents quand
ouais,
même.
C'est ça.
C'est-à-dire, on est
de l'autre côté du miroir.
Déjà, ouais, on est dans le Black Mirror qui était déjà lié beaucoup à Lewis Carroll. Mm-hmm. Puis, ouais, on est vraiment dans, aussi dans l'absurdité, dans les règles qui sont suspendues, les choix qu'on fait n'ont pas de sens, ou en tout cas, on peut pas les comprendre exactement mm-hmm. comme avec Alice. Ouais, mais ouais. Le Bandersnatch lui-même, ouais, j'avoue que ben il y a l'espèce de monstre qui apparaît dans
le Pax là, le...
Ouais. Mais
ouais. Ouais, effectivement, c'est ça. Ouais.
Mais c'est intéressant de croiser justement l'imaginaire de Carroll que lui ça, il utilisait un peu, il poussait l'absurdité de la langue surtout à un extrême pour critiquer justement le fait que c'est arbitraire la façon dont on construit une langue. Puis Black Mirror fait un peu ça avec les technologies en général telles qu'on les utilise aujourd'hui, donc on essaie de les pousser dans des extrêmes. C'est tout le temps le gag que c'est genre les producteurs sont tous gelés puis ils font comme « What if your mom ran on batteries?
» Et je pense que d'une certaine façon, tu sais, il faudra peut-être leur donner le bénéfice du doute aussi, au sens que je pense qu'ils voulaient que les choix qu'ils nous donnent aient l'impression que ça ne soit pas des vrais choix. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi une forme de critique du public qui veut de l'interactivité à tout prix, tu sais. Tu sais, on est comme... Je pense que c'est une critique de notre époque qui, justement, veut pas se faire comme... se faire imposer une programmation télé à tous les soirs sur le câble, avoir aucun choix. Tu sais, je pense que c'est très Black Mirror de critiquer cette société-là qui tient à faire des choix constamment, puis qui a l'impression qu'il fait des choix constamment, mais que c'est des choix qui ont, en fait, qui sont pas plus des choix qu'ils l'étaient avant, que le fait d'avoir Netflix te permet pas vraiment plus de choisir ta consommation que le câble pouvait te le permettre, parce que les propositions sont limitées, puis même s'ils le sont pas, oui, Netflix contient quand même pas mal de contenu, mais les algorithmes font que tu y as à peu près pas accès.
Ouais.
Je veux dire, ça limite tellement tes choix que je pense que d'une certaine façon, que si on se fie au reste du corpus Black Mirror, on peut penser que c'était assez volontaire de nous donner cette impression d'oie-mère-là, tu sais, de nous décevoir d'une certaine façon. C'était pour nous montrer à quel point notre volonté à tout prix d'interactivité est peut-être un peu risible ou en tout cas vaine, quoi.
Le tout enrobé d'une nostalgie des années 80 qui quand même commence à être un peu surutilisée.
Oui,
aussi, oui.
Elle est presque parodiée, là, je veux dire.
Oui, oui.
Je pense qu'on est rendu là, je pense qu'on se fout peut-être un peu de notre gueule, tu sais.
C'est probable.
Ou bien ils se sont juste dit, bon, on va faire ça, puis ils l'interpréteront, hein. On va leur donner de la matière, là.
C'est vraiment ça l'impression que j'ai eue avec les références à Carol. Et là, c'est ça, je suis arrivée en retard. Je sais pas si vous avez parlé de la référence à Philip K. Dick.
À peine.
C'est ça. Ben, honnêtement, moi, tout le long, je me disais, tout ce que je me rappelais, c'est à quel point j'aimais ça, les histoires de Philip K. Dick, et à quel point ça, c'était une moins bonne histoire que les histoires de Philip K. Dick. Mais justement, on est dans des références comme mur à mur, mais c'est des trucs super superficiels, justement.
Ouais,
le bout, il passe à travers le miroir. C'est juste, on nous met ça comme des Easter eggs, mais en même temps, pas vraiment, parce que ça mène à rien.
Ouais.
Et n'importe qui pourrait les soulever, mais la réflexion est pas là.
Mm-hmm.
C'est du name dropping, surtout dans le cas de Philip K. Dick. C'est des références à sa vie, c'est des références à son œuvre, puis les réflexions qu'il y avait, surtout sur, c'est ça, la possibilité des mondes parallèles, puis il était extrêmement paranoïaque et tout, mais il n'y a pas la réflexion en arrière de ça. Mm-hmm. Puis on n'est pas dans des questionnements identitaires puis des questionnements existentiels, on est dans quelque chose qui essaie de briser le quatrième mur, justement, avec, mon Dieu, mais qui êtes-vous?
Mm-hmm.
On est Netflix et on te contrôle, puis la réflexion s'arrête là.
Mm-hmm.
Fait qu'on n'est pas dans une espèce de... On n'essaie pas d'élaborer une espèce de réponse métaphysique à l'univers, tu sais, on est dans quelque chose de... qui reste en surface.
Ouais,
qui fait des références à plein de choses et touche à tout, mais va pas en profondeur.
Effectivement, j'ai eu beaucoup cette impression-là aussi de « Tiens, regarde le clin d'œil, tiens, regarde le clin d'œil, tiens, regarde le clin d'œil. » Autant, comme tu dis, Philip K. Dick est au sens large que Black Mirror face à Black Mirror, là, des clins d'œil glissés à l'intérieur si tu as vu les autres épisodes, notamment le White Bear symbol, là, le petit symbole de la branche, là, si on veut. Là. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un genre, je sais pas trop comment le dire, est-ce que c'est un épisode hommage, est-ce que que c'est un épisode qui était voulu pour genre ceux qui connaissent bien Black Mirror d'une certaine façon pour leur donner un peu plus. Je sais pas trop où ça se situe en fait. Puis effectivement, j'ai pas eu les réflexions que j'ai habituellement avec les autres épisodes.
Ouais. Mais le fait que ça se passe en 1984, c'est peut-être un indice de comment il faut replacer cet épisode-là dans le reste de Black Mirror. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent pas, eux, en tout cas, comme un antépisode où ça serait, OK, vous voyez tout ce qu'on vous a montré, toutes les conséquences négatives de des technologies contemporaines, du contrôle, tout ça, ben c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé à déraper. C'est en 1984 pour plein de raisons, parce que c'est le...
C'est 1984.
Parce que c'est le roman 1984, parce que c'est le lancement d'IMAX. C'est tout ça qui est arrivé à l'époque. On s'entend qu'Internet commence à se développer dans les années 80. Il vient juste d'être inventé.
Les jeux vidéo qui commencent à...
Les jeux vidéo qui commencent. Donc, tu sais, on sent que ce qu'ils veulent nous dire, au fond, c'est que on peut pas en réchapper. Je pense que c'est peut-être encore plus pessimiste que le reste de la série. Mm-hmm. On peut pas en réchapper parce que ça fait 30 ans qu'on y est déjà, en fait.
C'est ça, on est déjà engouffré complètement, englué même, déjà dans les technologies.
Donc, on est tous rendus fous, en fait. T'sais, on est tous dans une psychose collective.
Avec nos écrans.
Oui, parce qu'on s'entend que les messages de Black Mirror sont jamais très subtils, de toute façon.
C'est vrai que t'as le beurre dans la face, pas mal.
Non, c'est super straightforward. Mais c'est intéressant aussi de voir, c'est sûr qu'on s'interrogeait à savoir si c'était un Black Mirror ou pas, mais je pense que cette réflexion-là ne serait pas ressortie si on l'avait pas inscrite dans la série Black Mirror. C'est sûr qu'on voit des tendances qui se sont développées dans les 4-7 premières saisons de l'anthologie, puis on a interprété Black Mirror en fonction de ça. C'est sûr que peut-être que l'épisode serait vraiment plus vide s'il ne s'inscrivait pas comme dans la série Black Mirror, puis s'il n'y avait pas toute cette réflexion-là, qui est très évidente, mais qu'on marine un petit peu depuis 2011 dans notre tête, là, donc ça fait partie du paysage, ben, de l'imaginaire contemporain qu'on a aujourd'hui. Puis c'est sûr que Black Mirror et ses messages très évidents sur la technologie influencent l'interprétation, là.
Non, je pense que t'as raison. Je pense que tu peux pas avoir aucune clé d'interprétation le moindrement intéressante si tu l'exclus, si tu le sors complètement du cadre de Black Mirror. Je pense que en soi, en film indépendant, il y a vraiment très peu d'intérêt. Mais c'est vrai que si tu vas chercher des clés ailleurs, puis tu vois ce que ça peut te dire, le mettre en relation, là, ça peut devenir un peu plus intéressant.
Je pense aussi que l'espèce de gros ramassis de plein de clins d'œil dedans est un terreau fertile pour les réditeurs de ce monde qui aime creuser, analyser, puis essayer de faire des ponts. Je lisais notamment sur le White Bear Symbol, l'espèce de truc en branche, c'est celui d'un épisode précédent. Pour ceux qui ont vu, c'est l'épisode où dans le fond, t'as une jeune fille qui se réveille le matin, puis elle est comme confuse, elle sait pas trop où elle est, puis au fur et à mesure de sa journée, elle se fait comme maltraiter en quelque sorte, avec des gens qui la filment et tout, puis elle a complètement oublié de ce qui s'est passé dans sa journée, puis elle est comme coincée dans une boucle comme ça. Donc là, tu peux te dire, est-ce que dans le fond, le personnage principal qui voit le symbole le White Bear Symbol, est-ce qu'il n'est pas lui aussi, en fait, un condamné qui avait commis un crime, puis que les gens qui filmaient, puis qui regardent toute la journée la fille, ben c'est pas nous autres qui sommes ces tortionnaires en quelque sorte. Là, puis là, tu peux t'amuser à creuser avec ça, mais je sais pas si c'est vraiment la volonté d'essayer de créer des ponts entre les épisodes de Black Mirror, ou si c'est juste, on va mettre ce symbole-là parce que ça matche bien dans notre univers sans vraiment vouloir en donner plus. Là.
Il réapparaît quand même ponctuellement, juste un flash. Je me souviens, j'ai écouté quelques épisodes dernièrement pour essayer de finaliser mon écoute avant l'émission. Puis des fois, il y a comme des flashs, c'est juste peint sur un mur ou c'est vraiment très subtil. On peut aller à la chasse à ce symbole-là, puis c'est sûr que ça finit par...
Mais au fond, ça devient juste ça. C'est juste une chasse, écouter cet épisode-là. C'est...
Mais la chasse au Bandersnack.
C'est vraiment ça. Ouais.
C'est un jeu.
La chasse au Snark.
D'une certaine façon, ça me fait penser à l'épisode de Sherlock, la mort de Sherlock, où pendant, 2-3 ans, il n'y a pas eu d'épisode. Puis là, tout le monde s'est mis à délirer sur toutes les théories possibles. Mm-hmm. Puis le premier épisode qu'ils font en revenant, c'est... On va vous montrer plein de théories que vous avez imaginées, puis on va jamais vous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a comme un côté de fanservice, mais en même temps de se foutre de leur gueule complètement.
Mais il y a aussi, il y a beaucoup de séries populaires aujourd'hui qui jouent là-dessus, qui savent qu'il y a une communauté qui est derrière l'épisode, les émissions, les épisodes, les séries, puis qui jouent avec ça. T'sais, ça a commencé avec Survivor, puis ça continue encore aujourd'hui avec comme, plein de séries, dont Sherlock, c'était vraiment un bel exemple, très explicite, mais très drôle aussi. Donc, c'est sûr que Black Mirror veut jouer avec ça, puis c'est diffusé sur les outils même qu'il dénonce.
C'est une technique marketing pour fidéliser ton public aussi.
Mais tu sais, il y en a tellement là, dans celui-là que t'as quasiment l'impression que c'est pour les rendre fous. Il y a quelque chose de l'ordre du sadisme. T'sais, tu voyais les gens sur les forums, puis tu as l'impression qu'ils étaient quasiment en train de devenir fous. Parce qu'il y a même le créateur qui a même dit qu'il y avait une fin qu'il était plus capable de trouver.
Ouais,
qui semble une complètement fin cachée, absurde, soyons honnêtes.
Ouais,
je veux dire, clairement, c'est une invention totale.
Ah oui, c'est ça.
Mais ça rend fou tout le monde.
Oui, tout le monde veut trouver la.
T'as comme des milliers de personnes qui essaient de le chercher. Ça les rend complètement fous parce qu'ils veulent être la personne qui va l'avoir trouvé. Tu sais. Je pense qu'il y a presque l'heure du sadisme envers les fans parce que rendu là, ça devient presque absurde. Là. Je veux dire, avec toutes les. Si tu analysais le white noise pendant les écouteurs,
ouais, c'est ça,
tu te ramassais sur un site web.
Ça donne un code QR.
Le code QR te permettait d'aller jouer. Et rendu là, là, sérieusement, j'ai de la misère à pas trouver ça.
Mais ça s'inscrit en filiation avec les ARG, les Augmented Reality Game qui sont de plus en plus populaires là, avec Reddit et tout. Il y en avait un de Gravity Falls, puis il y en avait un petit peu plus. Fait que c'est sûr que comme ça vient après ça, donc on n'a plus le choix de le lire par rapport à ça. Puis comme si ça donne un code QR pour aller sur un site, puis tu appelles un numéro de téléphone qui t'envoie quelque part. ça fait juste comme te faire rebondir sur un peu partout. Là.
Ben, c'est sortir du cadre du truc fictif puis l'amener dans la réalité aussi. Là.
Mais je pense que ça contribue beaucoup à toute l'espèce de bouillonnement qu'il y a autour de ça de ces temps-ci, justement, parce que si on n'avait pas des plateformes comme Reddit sur lesquelles les gens peuvent discuter des fins que toi, t'as pas trouvées personnellement, ben comme l'intérêt se perdrait rapidement, tu sais, parce que t'aurais pas justement la curiosité d'aller aussi loin dans le scénario parce que le scénario est tellement ténu. Fait que c'est ça, en voyant qu'il y a des gens qui ont accédé à telle fin que toi, t'as pas trouvée, mais là, ça donne justement la motivation d'avoir passé à travers puis essayer de faire des choix différents parce que sinon, ce serait peut-être pas là, tu sais. S'il y avait personne pour nous signifier toutes les easter eggs qu'on a manqué, l'intérêt, il pourrait... Ouais, il s'éteindrait rapidement, là.
C'est vrai que t'as des milliers de personnes qui font... qui une espèce de conscience collective qui fournit du... l'information sur le truc, là.
Absolument. Puis sinon, je veux dire, l'intérêt, il serait tout autre, là. T'arriverais à une fin, puis c'est comme... OK, ben c'est la fin, tu sais, c'est fini. On va pas nécessairement repasser à travers parce que tu sais pas... Tu sais quoi les fins potentielles que t'as manquées, puis là, on le sait. On peut trouver cette information-là rapidement, en fait.
Ouais. C'est presque une compétition. Tu trouves sur YouTube des vidéos où il y a des gens qui ont fait des montages avec toutes les fins. Puis là, t'as les commentaires en dessous, puis là, c'est là, ça se félicite d'avoir gagné ou d'avoir... Il y a vraiment là de la compétition sportive, tu sais, de est-ce que combien de fins t'as trouvé?
C'est du jeu.
C'est du jeu, c'est ça.
C'est là le jeu, en fait. Il n'est pas du tout dans l'interactivité.
Non, c'est ça. Le jeu est à l'extérieur de l'œuvre. C'est là, après. Puis en même temps, ils l'ont fait... comme en connaissance de cause.
Clairement,
c'est ça. Parce que c'est ça la grosse réflexion. C'est nous qui regardons dans notre Black Mirror d'ordinateur pendant qu'on joue au jeu. C'est ça. Il y a tout qui nous ramène à nous-mêmes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'autoréflexivité, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est ça le principe
ce qui
même.
C'est un peu même, là.
Oui, absolument.
Non, c'est ça. Mais en même temps, ça fait très Black Mirror. On en parle
aussi.
Même.
Mais c'est peut-être pas Black Mirror pour rien. C'est l'écran noir qui nous reflète beaucoup plus que ce qu'il y a dedans.
Mais les messages en général sont très évidents dans les épisodes. C'est vraiment pour dénoncer notre abus puis notre obsession avec les réseaux sociaux.
Mais le problème, c'est que ça fonctionne bien quand le récit est super bien monté. Les épisodes qui nous ont marqué le plus sont pas plus subtils. Sont juste vraiment bien foutus. C'est bien joué, la structure narrative est efficace, il y a une vraie montée de la tension où, au début, tu comprends pas trop ce qui se passe, ça a l'air d'une grande banalité comme le réel, puis ça dégénère. Ça, c'est ce qu'on voit rarement, quand même, en littérature, au cinéma. Généralement, on est soit dans un réalisme assez important, soit dans un décalage dystopique très, très important. C'est rare qu'on a la progression d'un à l'autre, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui fait.
C'est ce qui est mieux réussi, je pense, dans Black Mirror.
Ben, justement, à ce propos, je sais pas si vous vous souvenez un peu de l'épisode Metalhead. Celui avec les chiens, les chiens tueurs en noir et blanc. Je sais pas pour vous, mais moi, j'avais trouvé que c'était un des moins intéressants.
Moi aussi.
C'est le même réalisateur que Bandersnatch.
Il y a des références dedans.
Le jeu vidéo Metalhead, mais
c'est un des moins intéressants.
intéressant.
Ouais, ouais, effectivement. Donc, je sais pas pourquoi ils ont choisi lui.
Le plus formaliste aussi, ouais. Le plus... ouais, ouais.
C'est un des deux, j'ai pas écouté, fait que je vais pas le regarder.
Non, honnêtement, ça vaut pas tant la ouais. peine, non.
C'est ça. Mais il y en a des très faibles, autant qu'il y a des chefs-d'œuvre, tu sais, tout le monde s'est palmé sur San Junipero. Ouais, ouais, mais en même temps, c'est. Ouais.
C'est années 80, encore une fois, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, mais en même temps,
oui, mais différent.
Mais justement, joue, se passe pas dans les années 80, c'est-à-dire que c'est justement ça.
C'est une espèce de bulle temporelle où on peut décider de la décennie dans laquelle on, ouais. on s'actualise.
Oui, toi, là, je trouvais ça vraiment pertinent. Ben,
c'est
ouais.
Le paradis, c'est les années 80, c'est ça qu'il dit.
Mais quand toi, spécifiquement, cet âge-là, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça devient vraiment une question générationnelle, sur le temps aussi, puis le rapport à la jeunesse, puis tout ça, tu sais, ça montre à quel point on obsède sur les années 80, parce que les gens qui obsèdent sur les années 80, ils étaient jeunes dans les années 80. Ils regrettent le fait d'être moins jeunes qu'ils l'étaient. Ouais. Donc, tu sais, forcément, il y a quelque chose de cet ordre-là. T'sais.
Mais il y avait aussi, tu sais, il y a d'autres périodes qui sont montrées dans San Junipero, au sens où quand elle essaie de se sauver en manifestant dans les années 90, donc tout le monde ouais. a un peu la mode, les petits chokers, puis tout. Fait que les,
ouais, mais c'est l'enfer en même temps.
Ouais.
Tu sais, le paradis, c'est les années 80, le l'enfer, paradis. C'est les années 90.
Et voilà. Tout est dit.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un autre épisode aussi, parce que le mari d'une fille meurt, puis là, elle commande la version Android. Oui. Lui, il y a quelque chose.
Ouais.
C'est ces histoires-là qui sont plus en subtilité, plus vers l'intime, plus axées vers justement qu'est-ce qui est de l'ordre du privé. Alors que les épisodes que je trouvais personnellement moins intéressants, c'est ceux qui sont vraiment axés vers le public. Donc, l'épisode avec les abeilles, que j'ai pas trouvé très bon.
Non, donc, non moi non plus. Mon Dieu, je trouvais ça extrêmement dur à suivre pour
elle. Ouais, j'essaie de m'en rappeler, ça m'a pas marqué.
C'est comme une espèce d'enquête policière.
C'est la. De la
ouais,
saison 3.
Ouais, c'est
avec
ça.
Des
ouais.
hashtags genre.
Ouais, c'est ça, Death.
Oui, c'est ça.
Death tout, là, ouais.
Ouais. Non, ça manquait un petit peu de ouais. subtilité, justement.
J'avais bien aimé Nosedive.
Moi aussi, c'est mon préféré.
Ouais, ouais, parce qu'il est tellement bien joué, puis ouais. la progression est vraiment efficace. Parce que...
Très actuel dans son propos. Hein.
Oui, oui, ça aussi, ouais. On est tout le temps en train de le citer juste pour parler de la Chine maintenant aussi.
Ouais, ouais, c'est ça.
Drôle, complètement terrifiant.
Il est très drôle aussi.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup d'épisodes qui, justement, sont très, très dramatique, on n'est pas du tout dans l'humour. Là, je veux dire, moi, je riais du début à la fin.
Ben oui,
c'est vraiment anecdotique.
Parce qu'il faut se souvenir que Black Mirror, c'est aussi une série parodique.
Oui.
Donc, si on pense à USS Callister, qui est la parodie de Star Trek. Donc, il y a ça. Quand ça joue sur la parodie ou ça joue sur l'intimité ou notre rapport plus intime avec la technologie, c'est là que Black Mirror, à mon avis, est plus intéressant.
Ouais.
Donc, Bandersnatch joue pas partout là-dessus.
Mais tu sais, c'est le grand avantage aussi du modèle anthologique, c'est-à-dire que tu peux expérimenter pas mal plus, puis tu peux te tromper. Puis ça veut pas dire que c'est pas la fin de la série parce que tu te trompes, parce que justement, tu peux essayer autre chose après. Tu sais, le monde va revenir. S'il y a un relativement bon taux d'épisodes intéressants, les gens vont revenir pour voir ce que tu vas proposer sur autre chose. Puis, tu sais, si tu as des personnages un peu moins intéressants, tu sais, si t'as, par exemple, un récit que tu veux raconter qui est particulièrement intéressant, mais que tes personnages sont un peu chiants, ben, c'est pas si grave parce que.
Ils reviendront pas.
Ils reviendront pas, c'est ça, tu sais.
Donc. Ouais, c'est ça. Puis. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ça va pas bien. Mais, donc, le temps file. Est-ce que on pourrait dire nos épisodes préférés de Black Mirror? On a un peu mentionné ça aussi. Est-ce que vous avez des préférences?
Moi j'ai un préféré dont on parle pas souvent, qui est Playtest, qui est l'épisode avec avec un jeune homme qui devient testeur de jeux vidéo. Des trucs de comment on appellerait ça? On appellerait ça du augmented reality?
Ouais.
Parce que là, on est dans un... C'est ça,
ouais. C'est ça.
Donc ça, c'est un des trucs les plus angoissants et horrifiants que j'ai vu dans ma vie, honnêtement.
Ah oui, vraiment. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment un bon...
Le Christmas Special était pas mal aussi.
Le Christmas Special était excellent.
Ouais, c'est un des premiers que j'ai vu en plus. Puis j'avais juste vu le premier de la série, puis tu sais, il est assez...
C'est quelque chose,
troublant, hein? pour dire le moins. Puis ça t'embarque pas forcément dans Black Mirror si t'as juste vu cet épisode-là. Il y a des gens qui m'ont demandé par quoi je commence. Surtout pas par celui-là.
Surtout pas.
Parce que tu vas...
Pas par ça, pas par
vraiment
le premier,
pas embarquer.
Non, c'est ça.
Fait que ça m'avait pris un certain temps à y revenir, puis j'étais revenue à l'épisode de Noël, puis c'est ça qui m'avait plus accroché, il était plus long aussi, je pense.
Il y en a des
un an et demi,
il était tellement bien fait.
Oui, mais il y a comme il prend le temps aussi.
Ouais.
Ce qui est assez rare. Puis ça prend du temps à construire ce genre d'atmosphère-là, puis ce genre de rapport aussi entre les personnages.
Puis aussi pour finir, si jamais c'est quelque chose, vous avez tout écouté Black Mirror, puis vous avez encore envie d'avoir des formats d'anthologie à la sci-fi, il y a le Philip K. Dick Electric Dreams, donc que je vous suggère fortement, qui est très intéressant, mais qui est vraiment plus fidèle aux nouvelles de Philip K. Dick. Donc c'est sûr que ça rejoue aussi sur cet imaginaire-là de la surveillance, du contrôle, de on se questionne sur notre réalité. Donc c'est sûr que si on veut continuer la réflexion, sûrement qu'on va peut-être avoir l'occasion éventuellement un épisode pas pensé que sur Philip K. Dick, ça serait très cool.
Ce serait vraiment bien.
Ouais, donc ça sera à de futurs projets. Et on va se quitter là-dessus. Donc merci beaucoup Hélène, Catherine, Sylvain. C'était très agréable de discuter de ça avec vous pour notre premier épisode de 2019. Et merci aux auditeurs, auditrices d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pop en Stock. Bye bye!